sur Radio Campus.
Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Radio Campus.
Bonjour.
Aujourd'hui, on vous emmène avec nous, étudiants en BTS SAM du lycée Sidon Apollinaire. On aurait pu parler de nombreux sujets d'actualité, mais nous avons plutôt décidé de vous emmener dans notre univers. Nous commencerons avec Pauline, qui va nous parler des bienfaits de la musculation. Puis Julie, du mal-être scolaire. Ensuite, Sarah va nous raconter des anecdotes de ses voyages. Puis Ilem, de McDonald's et du recyclage. Avanour, de la disparition des animaux. Marie, des principales causes du réchauffement climatique. Et enfin, votre humble serviteur, je vais vous parler de l'impact de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est à toi, Pauline. Quand on pense halter, on pense gros muscles.
Oui.
On pense à moi.
Oui, effectivement, on pense aussi bonne santé.
Donc, vous nous dites que soulever de la fonte peut être bénéfique pour la santé ?
Absolument. La pratique régulière de la musculation peut aider à réduire l'obésité. J'ai donc fait mes petites recherches. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1975, le nombre de personnes obèses dans le monde a triplé. De plus, cette obésité est un facteur de risque pour de nombreuses maladies, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains types de cancers.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut essayer d'échapper à l'obésité et des maladies si on choisit de pratiquer la musculation ?
Exactement, Noah. La musculation peut être un moyen efficace de réduire l'obésité. En soulevant des poids, vous construisez de la masse musculaire, ce qui augmente le métabolisme de base. Autrement dit, votre corps brûle plus de calories même au repos. De ce fait, plus votre corps brûle de calories, plus vous serez à même de perdre de la graisse corporelle.
Comme l'impression que vous me parliez, Pauline. Grâce à votre chronique, je vais aller m'inscrire à la salle pour brûler mon gros surplus de calories.
Très bonne idée, puisque la musculation ne se limite pas seulement aux avantages physiques.
Ah bon ? Dites-nous en plus, ça m'intéresse.
Ceci peut avoir un impact positif sur la confiance en soi. On a tous un petit complexe physique qu'on aimerait faire disparaître.
Mon gros ventre.
Par exemple, grâce à la pratique régulière de la musculation, vous allez améliorer votre estime de vous et avoir confiance en vous.
Mais ceci a été prouvé ?
Bien sûr. Selon une étude de l'OMS, 78% des personnes considèrent la musculation comme le sport le plus efficace pour le bien-être mental.
Donc, avec la pratique régulière, je vais perdre ou apprendre à aimer mon bidou ?
Exactement, Sarah. Grâce à l'amélioration de la composition corporelle, en construisant de la masse musculaire et en perdant la graisse corporelle, vous pouvez vous sentir mieux dans votre peau. De plus, la musculation peut vous aider à vous sentir plus fort et plus capable dans votre vie quotidienne.
J'ai écouté à la radio que la musculation pouvait réduire le stress. Est-ce vrai ?
Tout à fait. Lorsque vous pratiquez la musculation, votre cerveau libère une dose massive d'endorphines, d'adrénaline et de dopamine qui procure un sentiment de plaisir immédiat.
Donc vous nous dites que la musculation est un échappatoire aux problèmes de la vie ?
Oui, pratiquer un sport permet de vous concentrer sur vos objectifs et à vous donner un sentiment d'accomplissement.
Donc en résumé, la musculation est un moyen efficace pour perdre du poids et avoir un corps fonctionnel pour la vie quotidienne. En plus des avantages physiques, la musculation peut avoir un impact positif sur la santé mentale et le bien-être.
Alors, vous qui nous écoutez, pourquoi ne pas envisager d'ajouter la musculation à votre routine quotidienne pour profiter de ces avantages incroyables ?
Et peut-être que pratiquer la musculation serait même un moyen de s'échapper du mal-être scolaire dont Julie, spécialiste du sujet, va nous parler.
Merci Noah. Pour certains élèves, l'école est un bonheur, un lieu d'apprentissage et de socialité. Pour d'autres, une souffrance. Une expérience quotidienne de contrariété, d'humiliation, parfois de discrimination. L'attachement des élèves à l'école se révèle ainsi très contrasté.
Comment se fait-il que la même institution, censée traiter tous les élèves de façon égale, se traduise par de telles inégalités d'intégration ?
Il faut savoir, Noah, que ce mal-être se traduit par des manifestations repérables. Regardez si vous voyez par exemple des marques corporelles, des signes de fatigue, des changements physiques ou bien vestimentaires.
Comment je peux repérer que mon fils ou mon neveu ne va pas bien quand il part à l'école ?
Ce n'est pas forcément facile, car ces manifestations ne sont pas forcément visibles. Elles peuvent être la conséquence d'une variation brutale des résultats scolaires, d'un comportement de retrait, d'une recherche excessive de relations privilégiées avec un adulte, ou, à l'inverse, un refus de communication et d'attitude d'isolement. C'est essentiellement en classe que ces manifestations peuvent être observées. D'autres espaces, tels que la cour de récréation, le self, les abords de l'établissement, sont aussi des lieux où les équipes éducatives peuvent repérer ces signaux de mal-être. Ainsi, vous qui nous écoutez, si vous reconnaissez ces comportements inhabituels, les enfants, n'hésitez pas à en parler avec un adulte de confiance, et les adultes, faites appel à un professionnel.
Mais c'est ce que vous avez observé ?
Pas seulement Noah, ce sont des études scientifiques. D'ailleurs, voici quelques chiffres intéressants à savoir à ce sujet. Selon l'UNICEF, 44% des collégiens ont déjà eu mal au ventre à l'idée d'aller à l'école. Un chiffre très inquiétant. Mais le stress et le mal-être des collégiens peut aussi être lié à la violence dans l'établissement ou à la pression sociale exercée par les camarades. Plus d'un élève interrogé sur deux déclare avoir déjà eu des problèmes avec les autres élèves. Selon une récente enquête, les écoliers et collégiens français ne sont pas du tout épanouis dans leur scolarité.
Mais c'est propre à la France ou est-ce pareil dans les autres pays ?
Ce n'est pas propre à la France, puisque récemment, l'OCDE a fait un classement des pays en fonction de la qualité de vie dans les classes. La France est 22e sur 25 nations. De plus, elle arrive 2e dans le classement des élèves les plus stressés au monde après les Japonais. Pour obtenir ces données, 760 élèves de primaire et de collège, issus de quartiers populaires, ont été interrogés. L'opinion qu'ils ont de l'école est catastrophique. 74% des élèves sont partagés entre « j'aime un peu, je n'aime pas trop » et « je n'aime pas du tout l'école ».
Donc, si je résume pour nos auditeurs, la principale cause du mal-être sont donc les problèmes relationnels et le stress au travail ?
Tout à fait, Noah. Le mal-être scolaire est pointé du doigt par de nombreuses associations comme étant le principal responsable du décrochage scolaire. Il y a toutefois un point assez positif. Près de 70% des élèves estiment que leurs enseignants s'intéressent à eux. Tout n'est donc pas perdu.
Mais les vacances scolaires permettent à nos petits de s'évader, tout comme Sarah et ses petites anecdotes de voyage.
Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en voyage. Pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui partent en all inclusif, dans les hôtels, avec des piscines, spa, petit déjeuner, etc. Et d'autres qui, comme moi, prennent une petite valise, quelques affaires et qui aiment découvrir plein de pays. Aller découvrir de nouvelles cultures, des nouvelles langues et échanger avec les habitants. Alors je vous emmène avec moi dans mes aventures. Il m'est déjà arrivé de partir en excursion aux îles Canaries à Tenerife et passer dans des montagnes sur des routes hyper étroites. En taxi et à tout moment, on tombe dans le vide. On est resté une heure dans cet endroit pour visiter et quand on a voulu repartir, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de transport pour repartir. On a dû faire du stop et avec de la chance, on est tombé sur des Français.
Oh non, mais quelle angoisse, Sarah !
Une autre fois, quand on est parti en Grèce, plus précisément à Athènes avec ma belle famille, on arrivait après 6 heures de voiture, 4 heures d'avion et 1 heure de voiture pour arriver à l'hôtel. Mais pour arriver à l'hôtel, on a dû passer par des rues taguées où des motards inquiétants nous dévisageaient. Ça a failli tourner au film d'horreur.
J'imagine bien que t'as pris tes clics et tes claques et ta petite valise.
Encore pire, on était dans les champs, toujours en Grèce, à Paros. Nous sommes tombés en panne, plus d'eau. Plus de réseau, la catastrophe quoi, même pas un McDo. Et pour bien finir ce voyage, on a perdu un téléphone dans l'avion, on a dû attendre 2 heures pour le récupérer, alors qu'on avait un autre avion à prendre. La cata quoi. Bref, point positif, on n'oubliera pas ce voyage.
De nuages en marée. voyage, voyage.
Eh ben, nous venons d'écouter Voyage, Voyage. Maintenant, il est l'heure d'un McDo. C'est parti, Ilem.
Tout à fait, Noah. Moi, j'ai choisi de vous emmener aujourd'hui au McDo biologique. En effet, la planète va vraiment mal. On le voit notamment à cause des tsunamis, des séismes, la sécheresse qu'on entend tous les jours parler. Il faut donc agir pour la planète, ce qui veut dire sensibiliser les gens sur ce sujet. Mais les entreprises s'en servent. Pas que pour la planète, mais aussi à leur intérêt. McDonald's se dit agir pour la planète. On le sait tous, McDo, connu de tous, aurait beaucoup changé. Ça a commencé avec le changement du logo qui passe du rouge au vert, en référence avec le recyclage, et après l'objectif zéro plastique. De la paille en carton jusqu'aux jouets recyclables, tout y passe. Et voilà le travail. McDo considéré, on sait évidemment, comme le resto de la malbouffe, a réussi à se faire passer pour une entreprise saine et biologique. McDo n'allait bien sûr pas laisser passer cette opportunité.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Mais bien sûr, Noah, qui dit activité bonne pour la planète, dit attirer les clients, ça va ensemble.
McDo deviendrait une enseigne responsable réellement, ou se donnerait-elle juste une image ?
C'est une bonne question, Noah. Vous n'avez pas que du muscle à ce que je vois. Un grand nombre de personnes penseraient à une action de greenwashing.
Mais c'est quoi ça ? On dirait l'anglais.
En plus français, Sarah, le greenwashing, c'est utiliser l'argument écologique pour une entreprise, sachant que cette entreprise ne fait rien pour la planète, tout ça juste pour améliorer son image et attirer les clients. Supprimer des gobelets en plastique pour remplacer par des verres lavables, c'est du coup beaucoup d'eau utilisée qui va être utilisée pour laver tout ça. Et ça, c'est pas très écolo. Je me demande de qui on se moque. McDo qui se dit penser écologique tout en servant de la nourriture plus que grâce à ses clients, sachant que ça engendre beaucoup de problèmes d'obésité, surtout chez les jeunes, c'est bien connu. Mais heureusement, Pauline est là pour nous donner des conseils muscu pour aider Sarah à perdre son petit bidou.
En parlant de cette eau, vous savez où elle finit ? Dans les océans, et c'est notre biologiste Avanour qui va nous parler de cette catastrophe planétaire.
Eh oui Noah, la situation est dramatique. Depuis des années, de nombreuses espèces ont disparu, et cela continue.
Quoi ? Vous êtes en train de dire que les sources polaires disparaissent ?
Eh oui, c'est exact. Il y a plusieurs menaces pour les animaux. La première cause est la destruction de l'habitat naturel. On le voit bien, l'humain détruit des milliers d'hectares de forêts, ce qui oblige les animaux à fuir leur environnement et à se retrouver sans aucun endroit pour vivre. La deuxième menace est la pollution des eaux. La pollution des eaux est l'une des causes qui provoque la disparition des animaux. Elle se divise en deux catégories. Il y a d'un côté les déchets dont le plastique est le principal responsable de la mort des animaux. Avez-vous déjà entendu parler du 7e continent ? Il s'agit d'une immense étendue de déchets 6 fois plus grande que la surface de la France, au cœur de l'océan Pacifique. La cause, les 8 millions de tonnes de plastique jetées dans les mers et les océans chaque année, et qui arrivent directement dans les estomacs des poissons. De l'autre côté, il y a les polluants liquides comme les pesticides ou les produits chimiques qui sont déversés dans les eaux de rivière.
Je ne mangerai plus de poissons.
J'irai plus me baigner.
Il y a une troisième menace qui est le réchauffement climatique. Bien que l'effet de serre soit un phénomène naturel, l'augmentation de gaz à effet de serre a pour origine les activités humaines entraîne ainsi le réchauffement climatique. Il s'agit notamment de la production d'énergie de carburant, la déforestation, l'agriculture, l'élevage et la pollution des mers et des océans. Certains animaux sont en première ligne face au réchauffement climatique, tel est le cas des ours polaires qui voient leur habitat de glace fondre des années en années.
Et il y a d'autres causes ?
Tout à fait, il y a d'autres causes. Dans une proportion plus minime, les catastrophes naturelles sont aussi responsables de la disparition des animaux. Il y a également des espèces invasives. Qu'elles soient d'origine animale ou végétale, introduites ou non par l'homme, elles ont un effet néfaste sur la biodiversité. Dans 50 ans, nous ne pourrions plus voir ces espèces, comme le rhinocéros de Java, le gorille de montagne, la tortue imbriquée, l'éléphant de forêt d'Afrique.
Mais que faire pour sauver la planète ?
Il y a des gestes simples pour contribuer à sauver les espaces menacés. Voici quelques exemples à appliquer au quotidien. Évitez le gaspillage, quel qu'il soit, trier, recycler vos déchets. Et bien sûr, comme le disait Ilham, bannir l'utilisation des sacs plastiques. Vérifier la provenance des produits achetés, manger et acheter local, et proscrire les produits à la base de l'huile de palme. Fini le Nutella, marcher au lieu de vendre, de prendre la voiture. En plus, c'est bon pour la santé. Et vous qui nous écoutez, j'espère que vous le faites bien chez vous. Révisez bien, il y a un terreau lundi, mais pas de stress.
Ok, je suis chaud pour l'interro. Mais nous sommes aussi chauds pour écouter Marie, qui va nous parler du réchauffement climatique.
Merci Noah. Aujourd'hui, nous connaissons tous les effets du changement climatique. Qu'il s'agisse de phénomènes météorologiques extrêmes, de l'élévation du niveau des mers, de sécheresses ou encore d'inondations.
Mais Marie, comment en est-on arrivé là ?
Eh bien Noah, le principal coupable, c'est nous, nos activités humaines. Ce sont certains de nos modes de transport, comme la voiture. Cela libère énormément de CO2 quand nous l'utilisons pour aller chercher du pain, qui est à peine à 100 mètres de chez nous. Et l'avion, on en parle ? Vous refuseriez un petit week-end à Rome en tête-à-tête ? Allez, soyez honnête.
Alors là, pas du tout.
Non.
Non.
Non plus.
Non. Selon les Nations Unies, les températures mondiales moyennes ont augmenté de 1,1 degré Celsius depuis la révolution industrielle. Ce phénomène a provoqué une multitude de phénomènes dans le monde entier, tels que l'élévation du niveau des mers ou phénomènes météorologiques extrêmes. Cela peut entraîner des divers effets liés au changement climatique, que nous observons aujourd'hui, comme en été 2022, avec une sécheresse que l'Europe a connue depuis ces dernières années. Plusieurs jardiniers ne pouvaient même pas arroser leurs plantations à cause du manquement de l'eau. Nous pouvons aussi constater que nos utilisations du plastique posent problème, n'est-ce pas Vanour et n'est-ce pas Adlam ?
Tout à fait.
Pourquoi ne pas revenir au bout de nos grands-mères ? Nous utilisons énormément de vêtements lorsque nous voulons refaire nos garde-robes. Et quant à nos anciens vêtements, que deviennent-ils ? À cause de ce réchauffement de la planète, on constate une forte croissance sur les fonds de glace, ce qui entraîne une élévation des océans. De nouvelles maladies, de plusieurs découvertes qu'on peut retrouver dans les fonds de glace, comme des espèces d'animaux qui se sont éteints depuis des milliers d'années.
Mais comment éviter cette catastrophe ?
Heureusement, il existe des mesures que nous pouvons prendre pour réduire notre impact sur l'environnement. Par exemple, les conflits armés que peuvent perturber les infrastructures, les activités économiques, provoquer les déplacements forcés de populations et empêcher l'accès aux soins de santé et aux services de base. Les épidémies peuvent causer des décès, entraîner des perturbations économiques et affecter la sécurité alimentaire.
Mais que faire ?
Pour faire face à cette crise, nous devons réduire nos émissions et nous tourner vers des sources d'énergie propres et renouvelables. Nous devons également protéger les écosystèmes vulnérables.
Moi, je veux encore voir des rhinocéros.
Moi, des orang-outans.
Et moi, des phoques.
Réduire les déchets.
Ras-le-bol du 7e continent.
Et investir dans les technologies vertes.
Alors justement, en parlant d'optimisation, nous allons parler du cas de la Coupe du Monde au Qatar. Le mondial de la honte, c'est le nom donné par certains internautes à la Coupe du Monde de football au Qatar de 2022. Entre corruption et polémique, c'est comme cela que la meilleure Coupe du Monde de l'histoire a commencé selon Gianni Infantino, qui est le président de la Fédération Internationale de Football. Mais quel a réellement été l'impact de cette Coupe du Monde ? C'est ce que nous allons essayer de voir avec moi pendant quelques minutes. Donc je vais tout d'abord commencer par une chronologie. Tout commence le 10 décembre 2010. Dans l'incompréhension, la FIFA attribue l'événement au Qatar, dans un pays avec aucun lien direct avec le football. En effet, son équipe nationale n'a jamais participé à une seule Coupe du Monde. Les votants expliquent cela par la solidité et l'originalité de la candidature. Je pense surtout que les votants ont vu autre chose dans un pays aussi riche que le Qatar. Durant les 12 années de préparation, de nombreuses polémiques sont apparues. Contre la chaleur du pays, les organisateurs ont décidé de déplacer la Coupe du Monde pour la mettre en hiver. Cela voulait dire, pour nous Européens, que les matchs autour d'un barbecue sur les terrasses n'étaient pas possibles, ou alors avec les doudounes élégants. Malgré ça, la chaleur allait toujours être forte. Les Qataris ont alors eu la très bonne idée de climatiser l'intégralité des stades construits pour l'événement. Bonne idée, pas pour tout le monde, car les enjeux écologiques étaient trop importants. Dans ces gigantesques chantiers, plus de 6500 ouvriers émigrés ont trouvé la mort, selon l'enquête menée par Le Guardian. Mais ce chiffre pourrait être supérieur, car les données prises seraient incorrectes. De plus, les ouvriers n'ont pas reçu le traitement humain qu'ils auraient dû avoir, avec de nombreux cas d'esclavage ou de travail forcé, comme indiquent différentes ONG. Tout cela a créé une grosse campagne de boycott de la Coupe du Monde. Maintenant, l'heure est au bilan. Tout d'abord, du côté organisationnel. Avec l'afflux de plusieurs centaines de milliers de visiteurs, le pays a su gérer sans faille les foules. Grâce à la modernité du réseau de métro, les déplacements de supporters n'ont connu aucune difficulté notable. L'interdiction d'alcool aux alentours des stades a sûrement joué un rôle. Sur l'ambiance, à l'intérieur des stades, celle-ci a été mitigée. Malgré certaines nations qui sont venues en nombre, ce n'est pas le cas de toutes. Le fameux boycott d'avant-mondial, lui, n'était présent seulement au début, car dans de nombreux pays, les chaînes nationales ont établi des records. Par exemple, TF1 a battu un record lors de la finale avec en moyenne 24 millions de téléspectateurs. Au final, seulement 37% des personnes qui avaient annoncé boycotter l'événement l'ont vraiment fait. Point noir de cette Coupe du Monde, l'écologie. Malgré les promesses de l'État qatari, ils n'ont pas réussi à les tenir car les émissions de CO2 ont surpassé les attentes. La création du stade 974, qui est totalement démontable, n'y a rien fait. Pour conclure, malgré les polémiques autour de sa préparation, l'organisation et le spectacle a été au rendez-vous. Mais cet événement a aussi été désastreux pour l'environnement. Mais est-ce vraiment étonnant dans un pays où le pétrole est le roi ? À vous de nous le dire. C'est ainsi que se termine notre émission avec toute l'équipe de BTS SAM du lycée Sidon Apollinaire. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez l'émission en podcast. Au revoir à tous.
Au revoir.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant.
je voudrais.